Radio Okapi. Lili Vantunga pour les journaux.
Ce journal s'ouvrira par ce crash d'un avion de la compagnie aérienne Air Kasaï, accident survenu ce vendredi dans la matinée près de la cité de Kamako dans la province du Kasaï. Jean-Marc Kabunda Kabou, secrétaire général de l'UDPS, donne de la voix dans cette édition après la rencontre entre le Rassemblement et la SADC. Pas question de s'engager dans une parodie des scrutins déjà gagnés d'avance. En seconde partie de cette édition, Léon Tososué, notre invité, parle des stratégies prises pour l'éducation dans la province éducationnelle du Kasaï oriental. Ce sera avant de revenir dans le dossier sur les conséquences des feux de brousse au Kasaï central. Restez branchés et tout de suite Radio Okapi vous fait voyager dans l'espace de l'actualité congolaise. Bienvenue, bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par cet accident d'un avion de la compagnie aérienne Air Kasaï. Accident survenu ce vendredi dans la matinée près de la cité de Kamako dans la province du Kasaï. Des sources sur place parlent de 4 morts et 2 rescapés. L'administrateur du territoire de Chikapa confirme le nombre des survivants, mais pas de précision sur les personnes décédées. Des explications avec vous, Blaise Nongala.
Selon l'administrateur du territoire de Chikapa que nous avons joint au téléphone, parmi les personnes décédées dans cet accident, il y a un copilote et 3 passagers. Jean-Paul Kouzo Kassenia précise que les 2 survivants ont été aussitôt acheminés à l'hôpital général de Kamako pour des soins appropriés. Mais il dit ignorer encore la cause exacte de cet accident et les nombres précis des victimes. Il explique que l'appareil accidenté venait de la cité frontalière de Kamako vers Kabungu. À l'instant, poursuit-il, les équipes ont été dépêchées sur place pour éteindre les feux occasionnés par les crashs de l'appareil. Jean-Paul Kouzo, qui présente les condoléances aux familles éprouvées, assure que les enquêtes devront être menées pour déterminer la cause de cet accident. De son côté, le gouverneur du Kasaï confirme les faits, mais il souligne cependant que 7 personnes étaient à bord de cet aéronef cargo. Il refuse de donner un bilan de l'accident, affirmant attendre d'avoir plus d'informations. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Politique. Le rassemblement de l'opposition refuse d'accompagner un processus électoral dans son schéma actuel qui préfigure une parodie des scrutins déjà gagnés d'avance. Déclaration faite ce vendredi à Kinshasa par le secrétaire général de l'UDPS à l'issue d'un échange entre la commission électorale de la SADC et des leaders du rassemblement de l'opposition. Kabunda Kabunda affirme que le processus électoral est en panne suite à la non-application de la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, à l'imposition de la machine à voter au fichier électoral qualifié d'effectif, ainsi qu'à la non-décrespation du climat politique. Il est au micro de Pascal Massirica.
Bientôt là, nous allons déposer nos listes à la députation nationale, mais cela ne voudrait pas dire que nous allons accompagner le processus électoral dans son état actuel. Nous continuons à poser des préalables. Si ces préalables ne sont pas rencontrés, sincèrement, nous leur avons dit que nous nous abstiendrons d'accompagner une fraude électorale. Parce que ici, tout est mis en place pour un dénouement catastrophique du processus électoral. Et nous ne voulons pas accompagner un processus électoral qui débouchera sur des pertes en vies humaines ou des contestations qui plongeront le pays dans un chaos, parce que déjà le peuple congolais souffre. Nous leur avons dit qu'il est hors de question pour nous de participer aux élections avec la machine à voter, où la loi électorale n'autorise pas l'usage de la machine à voter. Le calendrier ne fait nulle part mention de la machine à voter. C'est une façon de provoquer le peuple congolais et d'organiser la fraude à travers cette machine.
Sachez qu'étaient de la partie les leaders du G7, du G14, du MSC, la société civile, UDPS et ses alliés en réaction. La SADC dit avoir pris acte de toutes ses revendications. Nord Kivu, Luc Kunlula est mort dans un incendie non criminel. Déclaration ce lundi dans un point de presse à Goma du procureur de la République près le parquet de grande instance de Goma. Le procureur Dauphin Mawazo donnait les conclusions de son rapport d'enquête sur la disparition tragique le 9 juin dernier à Goma dans l'incendie de sa maison de cet activiste du mouvement citoyen Lucha. Ce rapport d'enquête, qui a connu la participation des experts de la police scientifique de la PNC, met donc un terme aux supputations sur un éventuel incendie criminel. Freddy Bikumbi nous en dit plus.
Pour les procureurs d'Ofin Mawazo, à part l'explosion de la batterie, les experts n'ont pas trouvé d'autres éléments extérieurs ayant provoqué cet incendie. Mais comme il faisait nuit, la sœur du défunt, Amène Kouloula, interrogée par ce même parquet, a indiqué qu'une moto était arrivée aux environs de leur résidence et 5 minutes après, il y a eu explosion alors qu'elle se trouvait aux toilettes. Et son frère n'a pas pu se sauver vu l'intensité du feu, a-t-elle déclaré. Pourquoi la piste d'un incendie criminel est-elle écartée? Le procureur d'Ofin Mawazo explique.
Les experts n'ont pas exclu l'hypothèse d'un incendie criminel. Les experts ont rendu leur conclusion par rapport à ce qu'ils ont découvert sur les lieux. Et que par rapport aux éléments rencontrés sur les lieux de l'incendie, on ne peut pas parler d'un incendie criminel.
Pour l'instant, ce dossier ouvert contre inconnu vient d'être classé sans suite pour fait non infractionnel, a ajouté le procureur. Mais le mouvement citoyen Lucha, auquel appartenait Feu Lucien Kouloula, s'est dit choqué par cette conclusion du parquet des grandes instances de Goma et compte réagir incessamment. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Parlons présentement de cette attaque hier soir contre un minibus de transport en commun en territoire d'Uvira au sud Kivu. C'est précisément au niveau de Kangunga Munyema, à 10 km au nord de la cité d'Uvira. Le bilan provisoire fait état de 5 blessés et un minibus de transport en commun calciné. L'attaque est attribuée aux rebelles burundais du FNL selon les militaires. Le chef de la cité de Kiliba, Ruhanika Birangwa Daniel, précise que 4 parmi les blessés, dont le chauffeur du véhicule, suivent des soins à l'hôpital de Kiliba. Fiston Goma nous relate les faits.
Le véhicule revenait du marché des Sangues et se rendait à Uvira Centre avec à son bord des vendeuses de poissons et des marchandises. Il était 19h local lorsque ce minibus est tombé dans l'embuscade des hommes armés parlant les Kirundi. Les témoins affirment que les assaillants estimés à une centaine étaient tous bien armés. Ils revenaient des montagnes de Kazimo et Katoniera, surplombant le village Kawizi. Ils ont arrêté le véhicule, ils ont fait descendre tous les passagers avant de les dépouiller de leurs biens et de les déshabiller. Ces malfrats se sont retirés ensuite vers la basse plaine de Kawizi, abandonnant le véhicule criblé de balles et de coups de roquettes. D'autres sources concordantes signalent qu'un militaire de FRDC venu pour l'intervention aurait été abattu. Le chef de cité de Kiliba, Daniel Rouhani Kabirangwa, ainsi que le président des jeunes de Kiliba, Bassimis Kapenda Fils, déplorent ce regain d'insécurité dans leur région. Ils lancent l'appel à l'armée régulière de renforcer les mesures de sécurité sur la route nationale numéro 5, comme c'était le cas dans les 3 mois passés. D'Ouvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Restons au sud Kivu pour signaler que le député provincial Frédéric Batoumiké va passer le reste de sa vie en prison. Verdict confirmé mercredi à Bukavu par la haute cour militaire dans un procès en appel portant sur les dossiers emblématiques des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. 3 officiers supérieurs des FRDC qui avaient été condamnés au premier degré ont eux aussi vu leur peine confirmée par la haute cour. Les défenseurs des droits humains et d'autres partenaires se disent satisfaits. Des détails avec Emmanuel Elamegi Okabedi.
Frédéric Batoumiké, député provincial, reste condamné à la servitude pénale à perpétuité. C'est la haute cour militaire statuant en matière répressive et au second degré à Bukavu qui a rendu l'audience d'hier mercredi dans la soirée. Le député provincial est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol massif, détention illégale d'armes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel. Les faits commis à Kavumu dans le territoire de Kabare. Dans cette affaire, la haute cour militaire fait une exception aux 2 prévenus qui eux sont condamnés à 12 mois de servitude pénale, tandis que 42 parties civiles constituées ont bénéficié des dommages intérêts. Par la même occasion, la haute cour militaire a condamné 3 officiers supérieurs des FRDC à de lourdes peines. Le lieutenant-colonel Bedi Moboudi, alias 106, le lieutenant-colonel Maron Toumoua, alias Marocain, poursuivi pour crimes contre l'humanité par viol, esclavage sexuel et pillage. Ceci est une première au sud Kivu en matière de crimes graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme s'en félicite. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu, Radio Kapi.
À Ituri, les travailleurs de la société des mines d'or de Kilomoto Sokimo boycottent le travail depuis mercredi à Bunia. Ils réclament entre autres plusieurs mois de salaire impayés, une bonne gouvernance de leur entreprise et le départ de leur directeur général. Une assemblée générale des travailleurs a eu lieu hier jeudi pour discuter de toutes ces revendications, mais rien n'a filtré de ces travaux. José Deschartes Menga suit de près cette affaire et nous fait le point dans ce reportage.
Plusieurs travailleurs de la Soukimo se rassemblent depuis mercredi devant leur bureau administratif ici à Bounia. Femmes et hommes, ils se disent dépassés par leur situation sociale. Pas de salaire depuis plus de 50 mois, promesses non tenues de leur hiérarchie, des soins médicaux presque inexistants, plus de 800 retraités non payés, la liste de leurs revendications est longue.
Un paiement quasi total et délibéré des salaires. L'électro-Soukimo produit, c'est quand même suffisant, mais aussi on a notre usine Denise qui produit quelque chose. Il arrive à la tête de l'entreprise, mais il dit vos arriérés, je ne reconnais rien. Il y a le forcing de départ des retraitables. J'étais dans la rue, on n'a pas calculé l'heure de compte final, mais là, on leur demande de partir sans argent, sans être payé.
Les travailleurs de la Soukimo reprochent également à leur directeur général l'imposition de partenaires extérieurs pour relancer leur entreprise. Ils estiment qu'après plusieurs joint ventures, la Soukimo ne se relève toujours pas au profit de certains haut placés à Kinshasa.
Depuis qu'il est à la tête de l'entreprise, il gère seul et comme il le veut, nous ne sentons rien, nous louons des bureaux ici, mais il y a un paiement même de ces bureaux-là.
Face à toutes ces revendications, les mécontents de la Soukimo réclament la démission de leur directeur général Oupio Kakoura. Ce dernier affirme qu'il est conscient de tous ces problèmes qu'il dit avoir hérités de ses prédécesseurs et qui sont presque généraux à toutes les entreprises congolaises. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Merci bien José. Voyons maintenant avec Ney Kabena, c'est qui se passe dans la province du Lualaba. Trois sites sont déjà identifiés dans le territoire de Mouchacha pour relocaliser les communautés du site Kasulo 2. C'est la réponse du gouverneur de cette province au plaidoyer fait par le cadre des concertations de la société civile et la Commission nationale des droits de l'homme en termes du Lualaba. Plaidoyer demandant la délocalisation urgente de ceux qui habitent encore sous ce site. D'après ces deux structures, l'exploitation artisanale qui s'y fait expose cette population au danger. En outre, plus de 270 maisons pourraient s'écrouler à cause des galeries souterraines qui y sont creusées. Le gouverneur Richard Mouyej se dit conscient de ce danger, mais évoque certains préalables. Il a été joint par Ney Kabena.
En toute responsabilité, je confirme l'urgence, mais il faut y aller avec un temps de stratégie. J'ai déjà informé la haute hiérarchie, c'est-à-dire le ministère national de Mines, et nous avons reçu les accords de principe, mais avec de préalables. Il nous faut d'abord choisir les sites de relocalisation. Il se pose des problèmes de budget et nous ne devons pas être bloqués à cause de ça. Nous sommes en train de chercher des partenaires pour préparer déjà les maisons où devront aller les personnes qui composent ces communautés. Il n'y a pas que les maisons, il y a des écoles, il y a des églises, il y a des hôpitaux. Et nous avons déjà choisi les sites, et tous les trois sites se situent dans le territoire de Mouchacha. Nous avons choisi l'entreprise qui va préparer ces sites. La construction ira très vite. Qu'on nous fasse confiance et nous travaillerons en accord avec la société civile. Kasulu 1, c'était notre première expérience. Il y a eu quelques erreurs sur l'ensemble des personnes délocalisées. Il y a eu des plaintes chiffrées autour de 13%. C'est tout à fait négligeable.
Avant de passer à la page internationale de cette édition, voyons ce qui se passe en Bujimaï. La province du Kasaï oriental a validé mercredi sa stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Il s'agit du résultat d'un travail d'experts de l'éducation qui a pris 8 mois afin d'adapter la stratégie nationale de l'éducation aux spécificités du Kasaï oriental. La production de ce travail a bénéficié de l'appui du programme Accélère 2. Léon Tososué Louis Liunda, directeur de la province éducationnelle Kasaï Oriental, parle des objectifs à atteindre d'ici 2027 dans le cadre de cette stratégie. Il est au micro de Chris Mukande.
Nous voulons construire à peu près 6000 salles de classe, les équiper. Nous voulons avoir tous les enfants à l'école et dans de bonnes conditions, garçons et filles. Nous voulons réduire cette discrimination entre filles et garçons parce que les coutumes parfois arrêtent les jeunes filles à aller à l'école. Nous voulons renforcer la formation des enseignants, des inspecteurs, équiper les inspecteurs de moyens de mobilité, de locomotion pour qu'ils puissent faire leur travail d'itinérance. Nous voulons aussi équiper les écoles en programmes scolaires, en manuels, en bibliothèques. Et nous voulons aussi avoir des laboratoires, des ateliers pour les filières techniques et professionnelles. Et tout ça, ça va concourir au développement de notre système éducatif dans la province du Kasaï oriental.
Actualité Afrique Monde.
Et nous partons de l'Afrique du Sud avec le procès de Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes d'une valeur de 2,5 milliards de dollars et datant des années 1990, qui a été reporté ce vendredi 27 juillet au 30 novembre prochain. L'ancien président sud-africain aura donc près de 4 mois pour réunir tous les éléments à décharge. Il comparaissait pour la troisième fois devant la justice depuis son éviction en février dernier par son propre parti, le Congrès national africain ANC. Le troisième dirigeant sud-africain post-apartheid est en effet sous le coup de 16 chefs d'accusation, notamment fraude, raquette et blanchiment d'argent. Il s'est lié à un accord sur l'achat de matériel militaire européen destiné à améliorer les capacités logistiques des forces armées sud-africaines après la fin de l'apartheid en 1994. Mali cette fois-ci, élection dans ce pays. Les Maliens ont rendez-vous avec les urnes ce 29 juillet. Mais à deux jours du vote, la lancinante question de la fiabilité du fichier électoral n'est pas encore réglée. De quoi provoquer une crise politique aiguë dans un pays déjà fragilisé par les violences au nord et au centre. 24 candidats plutôt sont en lice pour ce scrutin qui déterminera le successeur d'Ibrahim Boubacar Keïta, âgé de 71 ans et élu en 2013. Mais avant l'échéance, une boule de sable risque de bloquer la machine électorale. Un fichier électoral totalement différent de celui audité par l'OIF continue à s'inquiéter le chef de file de l'opposition.